Radio Stable.
Morning edition from NPR News.
Lo que se reproduce dentro de la radio.
France Inter, le 18-20.
La première escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène au Japon, où une loi antiterroriste, écoutez bien, peut vous punir si vous parlez de certains sujets. Ce soir, nous allons aussi en Italie prendre des nouvelles de Silvio Berlusconi. Il a plus de vie qu'un chat. Et s'il revenait, c'est le retour sur les épisodes précédents signé Olivier Poujade. Le vrai du faux de l'Europe nous ramène en Catalogne avant les nouvelles élections. 18h55, l'édito du journal Le Monde est Corinne Lenne depuis San Francisco. Et une maladie, la fièvre de la vallée, qui pourrait bien être liée au réchauffement climatique. Avant cela, je vous emmène dans le désert, celui du Hogar et bien au-delà, en Algérie, avec Yasmina Kadra. Le monde est vaste, et si on se perdait ?
Fabienne Saint-Pès, un jour dans le monde.
No Arab loves the desert. We love water and green trees. There's nothing in the desert. No man needs nothing.
Bonsoir Yasmina Kadra.
Bonsoir.
Je cherchais quelque chose pour illustrer notre conversation sur le désert, illustrer votre livre, ce que le mirage doit à l'oasis, qui nous rappelle ce que le jour doit à la nuit. D'ailleurs, j'imagine que vous ne l'avez pas fait, que c'est un peu exprès, et que vous aviez écrit précédemment. Je me suis arrêté sur cet extrait de Laurence Darabi et cette phrase. Aucun arabe n'aime le désert, nous aimons les arbres, nous aimons la pluie. Le désert de Laurence Darabi, c'est pas tout à fait le vôtre. Votre désert à vous est un peu à un autre endroit, un peu plus haut vers le Hogar. Mais il vous ramène où, ce désert? Pour vous qui l'aimez, justement, c'est quoi le désert?
Le désert nous ramène toujours à nous-mêmes. Il nous restitue ce que nous avons d'essentiel, de singulier. C'est peut-être le cosmopolitisme, c'est le bruit de la ville qui nous rend étrangers à ce que nous sommes. Mais d'un seul coup, quand on est au cœur de la nudité, au cœur du silence, on est fier de soi. Et quelquefois, on est très fier d'être ce qu'on est.
Vous dialoguez avec ce désert tout au long de ce livre. Parfois, il vous agresse, même vous le dérangez, en fait, en quelque sorte, dans sa quiétude. Il y a un petit passage. Que cherches-tu dans la poussière de mes entrailles, une histoire à te raconter afin d'assimiler la tienne, la trace d'un ancêtre pour assujettir le doute qui te ronge, tel un ver dans le fruit. Au fond, c'est ça que vous cherchez aussi dans le désert?
C'est lui qui est sceptique, et il doute de ma quête, alors que finalement, je ne cherche que moi-même. Voilà, le désert, c'est un monde intérieur, c'est une prière comme ça qui est assez ouverte. Et puis, on est constamment dans l'interrogation. On n'a pas peur de se poser des questions dans le désert. Et la réponse est
souvent... J'allais dire, personne ne répond, si quelqu'un répond quand même.
Oh, le désert, il nous snob. Hein. Désert, il voit au moins un petit individu qui se prend pour un poète et qui est capable de le chanter. Mais moi, je m'accroche à ce besoin vital pour moi de le célébrer.
Vous vous accrochez, vous y revenez souvent d'ailleurs, et c'est ce qu'on va voir tout au long de ce livre. Vous vous racontez en même temps que vous racontez votre désert, vous racontez votre vie, votre parcours, vous racontez aussi la vie militaire, l'Algérie. On va y venir. Et comment le désert a fait de vous un écrivain, en fait? C'est une traversée du désert, mais au sens positif du terme. On y croise toute votre famille. On va parler de votre grand-père un petit peu, parce que à la fois vous l'avez très peu connu, mais c'est un personnage central. Et puis il y a aussi votre père d'abord, qu'on réveille un jour à 20 ans. Vous racontez cette scène en lui disant « Dépêche-toi, habille-toi, tu vas te marier maintenant. »
Oui, ça s'est passé comme ça. Hein. C'était... Vous savez, à l'époque, les tribus se connaissaient parfaitement. Les entremetteurs et entremetteuses savaient qui pourrait aller avec l'autre. Donc, mon père, il était en train de gronder dans un café et on est venu le trouver pour lui dire « Allez, va te laver, ce soir tu te maries. » Et il a dit « Ok ».
Sauf que malgré la tribu et dans cet endroit, effectivement, parce que vous habitez aux portes du désert, votre père, il aimait Denise. Il aimait une Denise qui était française.
Et oui.
Ça, c'était pas possible.
Eh oui, c'était pas possible. Le patriarche n'était pas d'accord, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a toujours aimé la femme. Donc, il a essayé de traquer sa Denise à travers toutes les femmes qu'il a rencontrées, aimées, épousées et répudiées.
Voilà, mais ça vous fait rire maintenant,
bien
en fait,
Yasmina
Kadra, quand vous en parlez.
C'est quoi la vie, finalement? Ce n'est qu'une aventure. C'est à nous de lui trouver un sens.
Mais finalement, ils se sont aimés, vos parents, d'ailleurs.
Oui, ils se sont aimés, mais l'amour ne résiste pas à tout. La tentation, quelquefois, est beaucoup plus importante que l'émotion la plus intime.
Et il y a ce grand-père. Alors, c'est un poète maudit, votre grand-père.
C'est lui qui s'interdit de se considérer comme un poète parce qu'il avait été vaincu. Il était le patriarche de tout, d'un ensemble de tribus et mes ancêtres ont régné sur la Saora pendant 6 siècles et mon grand-père a été justement celui qui allait céder aux attaques extérieures et être vaincu et livrer son territoire à l'ennemi.
Et parce qu'il n'a pas vaincu l'armée coloniale, et on est très tôt dans le siècle, hein, 1903, dans ces eaux-là, il brûle ses poèmes, il n'écrira plus de poèmes, il les dira au désert, éventuellement, mais que pour le désert.
Ouais, c'était de la folie de sa part.
Mais il ne les écrira jamais.
Et c'était de la folie, tout simplement. Il voulait se sanctionner, il voulait se punir. Et c'est dommage, parce que un art n'appartient pas à celui qui le possède, il appartient à ceux qui les reçoivent. Voilà, et mon grand-père n'a pas souhaité survivre à sa poésie, même si elle est restée dans la mémoire de certains, mais quand même, il faut comprendre quand même que la France a colonisé l'Algérie en 1830, et il lui a fallu 73 ans pour venir à bout des tribus du Sahara. Et ça, le fait d'être justement ce glaive qui s'est brisé...
Celui qui flanche.
Oui,
celui il avait l'impression flanche. Que c'était lui, en
oui,
fait. Lui tout seul face à l'armée française.
Il culpabilisait beaucoup.
Terrible destin quand même de cet homme, parce qu'il finit par y rentrer dans l'armée, parce qu'il faut bien nourrir sa famille, et qu'il est commandé même par son propre fils.
Ah, ça a été
terrible, apparemment.
Oui. Ça n'a jamais été dans l'histoire de tribal. Hein. Depuis 6 siècles, c'est toujours l'aîné. Aujourd'hui encore, le droit d'aînesse est en vigueur. Et d'un seul coup, mon grand-père se retrouve aux ordres de son fils, qui était caporal ou sergent, je ne me rappelle plus. Et ça a été le saut de la déchéance la plus abyssale.
Yasmina Kadra, c'est quoi des djinns qu'on trouve dans le désert?
Ben, ce sont des silhouettes, des choses, des esprits. Voilà, ce sont des esprits qui ne sont pas forcément mauvais, mais voilà, peut-être c'est le silence, c'est peut-être le bruit de la dune qui se déplace. C'est des choses qui nous dépassent. Et comme on ne trouve pas une véritable identité à ces choses-là, on les traite de djinns. Quelquefois, c'est nous-mêmes.
Et vous racontez très joliment, on m'a certifié que le bruit nomadise. Donc c'est ça qui faisait avancer les tribus, en fait, aller d'un bruit à l'autre.
Oui, et puis ce livre, c'est aussi... moi, je le propose comme un roman, parce que ça part aussi du père de Foucault, ça part des Abel Eberhard, ça part... Enfin, de tous les gens qui ont traversé ce territoire et qui ont laissé une empreinte assez salutaire.
Et cette histoire de miraculé, notamment, que vous racontez, que vous trouvez tout seul en train de marcher, c'est une histoire vraie, ça? Vous êtes déjà militaire à l'époque.
Oui.
Vous voyez une silhouette, un gars quasiment pieds nus, qui n'a même pas à boire, pas à manger, qui avance tout seul.
C'est une histoire vraie, ça? Je crois avoir gardé une photo de lui. Et même sur la photo, c'était un être extraordinaire. Moi, je n'ai jamais compris comment un homme pouvait survivre sans eau et sans vivre dans le désert pendant une semaine.
Alors, vous dites effectivement que ce livre parle de beaucoup de choses. Moi, j'ai vu aussi beaucoup de métaphores, en fait, sur l'Algérie et ce qu'elle devient. Vous écrivez, par exemple, « Chaque jour me dépossède d'une couche de terre ». C'est le désert qui parle. Hein. « Chaque jour me dépossède d'une couche de terre. Il dévoile un peu plus la pierre, tel un squelette d'effet de sa peau pourrie. Est-ce que c'est aussi une manière de nous expliquer, de nous raconter que l'Algérie s'enfonce aujourd'hui ?
Non, pas obligatoirement. Là, je suis vraiment dans le désert. C'est une métaphore, c'est une prophétie, le désert. C'est une révélation cosmique, le désert. Mais l'Algérie, c'est autre chose. L'Algérie, c'est un pays qui traverse des moments très difficiles. Il est dans plein cœur d'une période d'incubation. Mais je reste optimiste pour mon peuple.
Mais il y a des élections aujourd'hui, Yasmina Kadra, par exemple. On a l'impression que tout le monde s'en fiche.
Ça ne veut absolument rien dire, les élections aujourd'hui. Moi, je table sur la jeunesse, sur l'élite, sur la diaspora, qui pourrait bien sûr aider ce pays à renaître à la lumière.
Mais sauf que la jeunesse, elle s'en va. En ce moment, elle cherche à partir.
Elle s'en va pas. Nous sommes 45 millions d'Algériens et c'est bien. C'est vrai que quelquefois, le désespoir pousse les gens à s'exiler, mais ça ne veut pas dire que le pays subit une hémorragie populaire. Non, nous avons des problèmes, c'est vrai, mais nous sommes là pour essayer de les résoudre et on va les résoudre.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à un jeune aujourd'hui qui aurait des envies de partir, de monter sur l'un de ces bateaux? On en trouve beaucoup en ce moment qui sont en train de traverser vers l'Espagne. Qu'est-ce que vous lui dites pour qu'il reste?
Oh, je ne peux rien lui dire. Parce que tout simplement, je ne connais pas c'est la condition de vie, je ne connais pas son statut social. J'espère tout simplement que là où il va, et il va se construire pour revenir rebâtir ce pays magnifique qu'on appelle l'Algérie.
Vous, c'est l'armée qui vous a construit, finalement. L'armée et le désert, puisque l'armée vous a renvoyé dans ce désert qui était le vôtre, en certaine façon.
J'avais 9 ans quand j'étais dans l'armée, donc quelque part...
L'école des cadets, d'abord, arrachée au désert par l'école des cadets.
Oui, j'étais arrachée surtout à ma mère. Ma mère ne savait pas où j'allais. Elle pensait que mon père allait me ramener à la maison le soir, et elle ne m'a vu que 3 mois après. Mais ce qui compte, c'est ce que je suis devenu. Ce sont les épreuves qui forgent les convictions. Moi, j'ai toujours rêvé d'être un écrivain. Et évoluer dans un monde aux antipodes de la littérature ne m'a pas empêché de le devenir un jour.
Et d'ailleurs, c'est le désert qui vous a fait écrire. C'est à ce moment-là que vous avez commencé. Au fond, puisqu'on s'ennuie ou qu'on regarde simplement le paysage, ça vous a donné envie d'écrire.
Je me suis mal expliqué, mais j'avais commencé à écrire bien avant d'essayer ce roman... Gomery le Capitaine.
C'est ça, Gomery le Capitaine, le roman inachevé, mais que vous n'avez jamais réussi à finir.
Oui, parce que je l'ai commencé dans le désert, et en quittant le désert, je n'avais plus cette inspiration. Elle est restée là-bas, quelque part, du côté de Tizawatine, dans les réverbérations des mirages. Voilà, et peut-être qu'un jour, j'aurai le courage et la force de revenir sur ce texte.
Quand vous y retournez, est-ce que vous revenez au manuscrit ou pas, Yasmina Kadra?
Oui, peut-être. C'est une ambition, parce que je voulais rendre hommage à ma tribu et aussi promener mon lecteur à travers la magnificence du désert. Peut-être que j'aurai le courage de le reprendre.
Et vous retournez dans les lieux de votre tribu aujourd'hui. Est-ce qu'elle vous reconnaît comme étant partie d'elle-même, en fait?
Ah oui, ça, je vous le garantis. Ils sont très, très fiers de moi. Mais moi, je veux tout simplement revenir à ce point 64. Et j'ai promis à mes filles de les emmener en février.
Vous ne l'avez jamais fait encore?
Si, si, de temps en temps. Pas régulièrement, mais quand je suis vraiment très, très éprouvé, il faut que je renaisse un petit peu à mes aspirations et je retourne dans le désert, parce que le désert, c'est un bain mort, un ciel ouvert, et voilà, j'accède à quelque chose dont j'ai besoin.
Il y a une chose qui m'a étonné, Yasmina Kadra, dans votre livre, qui est finalement assez court, parce qu'il est magnifiquement illustré par ailleurs par l'Assad Metoui, avec des choses qui sont absolument magnifiques. Mais au milieu des épisodes de votre vie, vous revenez sur vous êtes déjà arrivé en France, vous êtes déjà un écrivain, vous êtes déjà connu, vous commencez à faire un peu de presse, beaucoup de presse même. Et puis il y a cette polémique qui monte, on accuse l'armée algérienne, dont vous avez fait partie pendant très longtemps, de en gros se faire passer pour des terroristes, pour tuer des Algériens, et ça vous a blessé terriblement. Vous choisissez d'y revenir, ça veut dire que cette blessure est encore entière chez vous, Yasmina Kadra?
Ah oui, bien sûr. C'est pour ne pas avoir cette rancune et pour ne pas rendre les coupes, mieux vaut garder ces blessures comme des espèces de repères.
Mais vous avez encore cette blessure, donc cette rancune, en fait,
de vous, non? Je n'ai jamais eu de rancune, j'ai peut-être un peu de tristesse, de chagrin pour certains, mais jamais de colère. Moi, mon problème, moi, c'est ma maladie, c'est que je n'ai jamais réussi à haïr.
Qu'est-ce que vous gardez de vos années du militaire que vous étiez? Il y a eu les années GIA, notamment en Algérie, il y a eu toute cette période qui a été difficile et vous y étiez en plein dedans. Qu'est-ce que vous gardez de cette période-là, vous, aujourd'hui?
Je garde l'espoir de voir ce pays prouver qu'il est utile aux autres nations, qu'il est capable de réussir, qu'il a tous les moyens pour accéder à l'euphorie même.
Mais qu'est-ce qui manque?
Il manque
ou qu'est-ce qui devrait disparaître?
Et ce qui devrait disparaître, c'est certainement le régime en place. C'est tout à fait naturel. C'est un régime qui ne croit pas dans l'énergie de la jeunesse, qui ne croit pas dans le talent de ses génies, qui ne croit pas dans la littérature, ni dans le cinéma. Voilà, tout ce qui fait... Un peuple se construit non pas à travers ses politiques, mais à travers ses artistes, ses athlètes, ses intellectuels.
Ça veut dire que quand Bouteflika ne sera plus là, ça ira mieux? Est-ce que c'est aussi
simple
que ça?
Je ne pense pas, c'est pas aussi facile que ça. Parce que, l'alternance n'est pas dans le programme de ce régime-là.
C'est le moins qu'on puisse dire. Donc pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faudrait, Yasmina Kadra?
Je le répète, il faudrait que le régime s'en aille. Mais c'est pas facile, parce qu'il ne va pas ouvrir la porte et dire
ciao.
Il faudrait le chasser peut-être.
Bah écoutez, ce sera peut-être l'objet de votre prochain livre, Yasmina Khadra. En tout cas, celui-ci s'appelle « Ce que le mirage doit à l'oasis ». C'est publié chez Flammarion avec, je le répète, des illustrations de Lassad Metoui, qui est tunisien.
Et du Sahara aussi, j'adore. C'est un calligraphe magique, je l'adore moi.
Voilà, deux hommes du désert, donc autour du même livre. Merci beaucoup.
Ça fait tout un monde.
Merci, Yasmina Khadra, de votre passage dans Un jour dans le monde.
C'est moi, merci beaucoup.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
Et la suite d'Un jour dans le monde au Japon avec une loi qui punit le fait de discuter de certains crimes. À côté de ça, notre propre loi antiterroriste, c'est un peu une rédaction d'enfants. On vous emmène à Okinawa. C'est dans un instant. 18h40, le rappel des épisodes précédents. Olivier Pougeois dans Le Croyez Mort. Preuve qu'il a plus de vie qu'un chat.
Le teint plus cireux que jamais. Le visage tiré comme s'il était en permanence testé en soufflerie. Silvio Berlusconi, 81 ans. Il est de retour aux affaires.
Allez, à tout à l'heure. Le vrai du fou de l'Europe aussi en Catalogne. C'est avec Delphine Simon. Merci de nous écouter. Merci de rester avec nous. Voici de Liminanas. Istanbul is sleeping. Et contrairement à ce que leur indique, ils sont de Perpignan. Perpignan, les Américains les adorent, les Liminanas, Istanbul is sleeping sur France Inter. Voici Florence Paracuelos. Power Hit Radio. Magic FM.
Terra Radio. Desservi Prispo. 60 Minutes.
Florence, comme tous les soirs, qui se faufile sous les radars et dans les recoins de l'actualité internationale, on commence avec un gâteau de mariage.
Un gâteau au centre d'une affaire qui passera dans 15 jours devant la Cour suprême des États-Unis. C'est une histoire très sérieuse qui trouve sa source dans le Colorado, banlieue de Denver, juillet 2012. Deux hommes en couple entrent dans une pâtisserie pour commander une pièce montée pour leur mariage. C'est non, leur répond le pâtissier. Je suis chrétien, je ne peux pas faire ce gâteau. Je leur ai poliment expliqué que je ne faisais pas de gâteau pour les mariages gays. En revanche, j'aurais pu leur vendre tout ce qu'il y avait dans ma boutique. C'est pas facile de refuser quelque chose à quelqu'un, mais c'est une question de conscience. Voilà, pour la défense du pâtissier Jake Phillips, qui a déjà été condamné deux fois par la justice, parce qu'une loi du Colorado interdit toute discrimination dans les commerces. Mais si pour Jake Phillips, c'est une question de conscience, c'est aussi une question de principe. Voilà pourquoi l'affaire du gâteau sera jugée par la Cour suprême. Elle divise tout le pays désormais. Du côté du pâtissier, les groupes chrétiens et conservateurs, des dizaines de députés, une vingtaine d'États et le gouvernement Trump qui a adressé un argumentaire à la Cour. disant que le pâtissier a exercé sa liberté d'expression en tant qu'artiste créateur de gâteaux et qu'il faut respecter ses croyances religieuses. Liberté d'expression, c'est le premier amendement de la Constitution contre égalité sexuelle, liberté religieuse ou discrimination. Derrière un gâteau, c'est un débat très grave qui devra être tranché. Dave Mullins, un des deux futurs mariés et conduit, en a une conscience très aiguë. Si jamais on perd devant la Cour suprême, alors ce sera la porte ouverte à certaines discriminations qu'on avait bannies. La morale de cette histoire, c'est que ça n'est pas une question de gâteau ou de mariage. C'est de notre place dans la société qu'il s'agit. Ben voilà, rendez-vous le 5 décembre à l'audience solennelle de la Cour suprême.
Allez, c'est plus léger, mais on reste aux États-Unis avec une expérience, comment dire, improbable, programmée après-demain dans le désert de Mojave.
Un homme de 61 ans, Mike Hughes, chauffeur de limousine de son état, va décoller samedi à bord d'une fusée qu'il a construite lui-même pour prouver au monde entier que la Terre est plate. Mad Mike, c'est son surnom, estime qu'il est temps de prouver que les francs-maçons de la NASA nous mentent. Il devrait rajouter Pythagore, Platon et Aristote. Il n'est pas le seul à le penser. Aux États-Unis, cette croyance compte quelques adeptes, les platistes. Il y a une Flat Earth Society, par exemple. Et récemment, un rappeur et des basketteurs de la NBA ont dit qu'eux aussi pensent que la Terre est plate. Bah oui, c'est normal, puisque quand on prend des photos, l'horizon n'est pas courbe. Donc évidemment, c'est un grand complot qui nous fait croire le contraire. Pour démontrer la supercherie, notre Tintin complotiste Mike Hughes veut pouvoir monter assez haut pour prendre des photos, soit 6000 mètres d'altitude.
J'ai jamais pris l'avion, monsieur, donc.
il connaît pas non plus Pesquet, hein, évidemment.
Non plus.
Il n'en est pas à son premier essai, Mad Mike. En 2014, il s'était déjà lancé dans une fusée faite maison. La fusée est sur son pas de tir. Elle décolle. 1, 2, 3, 4. Elle explose. Mike Hughes a pu s'éjecter avec un parachute complètement troué. Il est tombé par terre. Ensuite, il a marché pendant 15 jours en déambulateur. On est très curieux de voir ce que va donner cette nouvelle tentative samedi.
Oui, on est vraiment curieux. Allez, une page animalière peut-être pour finir.
Eh ben oui, et puis pas des animaux mignons, Fabienne. Non. Attention, on va pas parler bébé panda, ni tout petit mammifère soyeux. Non, on va parler d'animaux qu'on n'aime pas dans des endroits où on n'a pas du tout envie de les croiser. Les transports en commun, en l'occurrence. Cette semaine, dans un train de banlieue indonésien, il se trouve qu'il y a un serpent dans ce train, sur un porte-bagages en hauteur. Les passagers sont terrifiés. Ils filment un homme qui va les rassurer. Il monte sur un siège, tire sur le serpent et claque, il le fracasse par terre dans un geste de fouetteur de cirque. Merci monsieur héros des réseaux sociaux indonésiens. Toute autre ambiance maintenant, et dans le métro new-yorkais, un rat s'est introduit dans la rame. Fou rire et terreur mélangés, une passagère est debout sur son siège, le rat fait des allers-retours dans tout le wagon, la scène dure. Jusqu'à ce qu'il finisse par sortir,
chef, le contrôleur.
Le rat, sans doute, était-il arrivé à sa station, Fabienne.
Absolument.
Voilà.
Éloignez-vous du quai, attention à la fermeture des portes. Merci beaucoup, Florence.
France Inter, le 18-20.
Allez, ce soir, nous sommes au Japon. Allez, vous vous souvenez des débats chez nous au moment des lois antiterroristes? Eh bien, au Japon, tenez-vous bien, on a passé un cap, discuter d'un crime est un crime en soi. Bonsoir Frédéric Ojardias.
Bonsoir Fabienne.
Alors Frédéric, il faut nous expliquer ça. Les Japonais l'ont appelée la loi anti-conspiration. Elle est censée prévenir les actes terroristes à l'approche des Jeux Olympiques de Tokyo. Ce sera en 2020. Mais évidemment, les ONG craignent terriblement les arrestations arbitraires. Vous nous ramenez, Frédéric, sur l'île d'Okinawa. On sait déjà, grâce à vous, qu'on proteste ici contre une base américaine. Et là, plus qu'ailleurs, cette loi suscite une véritable inquiétude.
Oui Fabienne, les militants pacifistes qui luttent contre la construction d'une nouvelle base américaine sur l'île estiment être visés par cette loi, et le président du mouvement pour la paix à Okinawa, Hiroji Yamashiro, sait de quoi il parle. Il a été arrêté et détenu pendant 5 mois l'année dernière sans aucun jugement et pour des faits mineurs qu'il conteste. Il affirme que cette loi offre de nouveaux prétextes pour arrêter les opposants aux bases.
Avec la loi anti-conspiration, même ceux qui n'ont pas participé à nos actions contre la base militaire américaine, ceux qui sont seulement au courant que ces activités auront lieu, peuvent dorénavant être jugés coupables eux aussi. Cela fait encore plus peur. C'est le plus grand problème de cette loi. qu'il n'y a plus de limite. Les autorités peuvent arrêter qui elles veulent.
Une accusation qui est aussi portée par Abe Takeshi, ce journaliste au quotidien Okinawa Times et l'auteur d'un récent livre sur les violences gouvernementales visant les mouvements d'opposition aux bases américaines sur l'île.
Cette loi vise le mouvement pacifiste d'Okinawa. Les deux menaces les plus sérieuses affrontées par le gouvernement de Tokyo sont les luttes anti-bases à Okinawa et les mouvements liés à l'accident nucléaire de Fukushima. Ces deux problèmes soulèvent de graves questions sur l'attitude des autorités, qui semblent ignorer, voire abandonner leur propre population. La loi anti-conspiration sera l'une de leurs principales armes, l'un de leurs outils les plus puissants.
Abe Takeshi s'inquiète en particulier de l'effet dissuasif qu'aura cette loi, et la description qu'il en fait est quasiment orwellienne.
Au Japon, autrefois, seuls les crimes déjà commis pouvaient être punis. Mais cette nouvelle loi punit jusqu'aux pensées des gens. Elle ne peut pas s'appliquer sans surveiller, sans mettre sur écoute, sans intercepter les emails. Elle aura un effet dissuasif, un effet puissant. Nous ne sommes même plus censés penser à certains actes.
Dites-moi, Frédéric Ojardias, après avoir entendu votre reportage, j'ai quand même une question. On sait bien ce qu'on peut faire sous prétexte de lutter contre le terrorisme, mais ce sont les abus, évidemment, qu'il faut craindre. Des exemples déjà, peut-être, ou pas ?
Le problème, c'est que parmi les 277 crimes spécifiés par la loi, certains n'ont qu'un lien plutôt éloigné avec le terrorisme, comme par exemple la collecte illégale de champignons ou la copie illicite de partitions de musique. Préparer de tels actes constitue désormais un crime en soi. Le rapporteur des Nations Unies pour le droit à la vie privée, Joseph Catanacci, accuse cette législation d'être écrite dans des termes trop vagues et il s'inquiète des risques d'abus. Quoi qu'il en soit, les autorités japonaises jurent la main sur le cœur que jamais elles n'abuseront des pouvoirs très étendus que leur offre la nouvelle loi.
Alors la main sur le cœur, hein, évidemment, mais est-ce qu'on peut les croire ? J'ai peur de connaître la réponse.
Eh bien, elles sont contredites par les faits. En début d'année, trois opposants au nucléaire ont été arrêtés alors qu'ils avaient partagé les frais de location de leur minibus pour se rendre dans la zone de Fukushima. La raison, ils ont été accusés d'opérer un service de taxi sans licence. Avec la nouvelle loi, une simple suspicion suffira pour autoriser la surveillance de citoyens. Les opposants au texte le comparent même aux lois sur la préservation de l'ordre public décrétées en 1925 par le Japon impérial pour museler les communistes et tous ceux qui étaient perçus comme une menace.
Frédéric Ojardias à Okinawa pour Un jour dans le monde sur France Inter. Merci.
France Inter.
Previously.
Dans l'épisode précédent.
Fabienne Saint-Pès.
Précédemment.
Previously.
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 Un jour dans le monde.
L'actualité en série, le jeudi, le retour d'un personnage de l'actualité internationale dont on prend des nouvelles. Voici un revenant. Bonsoir Olivier Poujade.
Bonsoir Fabienne.
Alors c'est pas vous le revenant, hein, c'est plutôt un autre. Le 27 novembre 2013, le glas que l'on entend sonne pour le Cavaliere et condamné pour fraude fiscale. Le Sénat italien vote l'inéligibilité de l'ancien président du Conseil jusqu'en 2019. Et là, normalement Olivier, sa carrière politique est finie.
Oui, mais non. Pâques,
ouais,
2017.
C'est très cloche aujourd'hui.
Oui, on est très cloche. Silvio Berlusconi renaît de ses cendres politiques. Il fonde le parti, tenez-vous bien, animaliste, un mouvement militant pour la défense du droit animal qui capterait bien au passage les 7 millions de voix d'électeurs propriétaires de ces pauvres petites bêtes, parti dont le clip vaut son pesant de cacahuètes.
Sauver les agneaux, particulièrement ce dimanche pascal, c'est ce que nous voulons dire aux Italiens. Et c'est ce qu'a voulu faire le président Berlusconi en adoptant ces trois petits qui auraient pu connaître une fin brutale.
Comme il est doux, comme il est tendre, le nouveau Berlusconi assis en tailleur dans son jardin, donnant le biberon à ce petit agneau sans défense. Voilà donc ficelé le premier acte, Fabienne, de son retour en politique, le rachat de sa virginité.
Et depuis le printemps dernier, il retrouve donc le chemin des plateaux télé.
Et très vite, on se rend compte que lorsqu'on lui demande son point de vue sur les nouveaux leaders politiques de la planète, le naturel revient au galop.
De Trump, je dois vous dire que ce qui me plaît, comme cela plaît à tant d'hommes, c'est Melania, pour sa beauté, son style et aussi pour son charme.
Même registre pour la France de Macron.
Avec Macron, nous avons un garçon de 39 ans, mais qui a une belle expérience de travail sur le dos et qui s'affiche avec une belle mama qui le portait déjà dans ses bras quand il était petit.
Voilà, on apprécie au passage les applaudissements de l'auditoire sur les bonnes blagues de papa Berlusconi.
Mais le pire, Olivier, c'est que ça marche.
Ça fonctionne plutôt bien. La victoire de la coalition de droite aux élections partielles siciliennes au début du mois démontre que cette alliance est en pleine dynamique et qu'elle le doit à son cavalier, d'après le député européen de Forza Italia, Renato Brunetta.
Berlusconi est le catalyseur. Comme en 1994, d'un centre droit uni qui, au moment où nous parlons, est potentiellement majoritaire dans le pays.
Alors, il y a quand même un couac, Fabienne, dans l'improbable comeback de Berlusconi, c'est qu'il reste inéligible. Ses avocats plaidaient d'ailleurs sa cause auprès de la Cour européenne des droits de l'homme hier, un recours pour casser cette inéligibilité. Peu de chance que cela arrive avant les législatives du printemps 2018, donc peu de chance que Berlusconi revienne au premier plan, mais finalement, peu importe.
Éligible ou pas éligible, je serai sur le terrain. Je pense dépasser les 30%. Pourquoi ? En raison des adversaires que j'ai en face. Et grâce au programme que je présenterai aux Italiens et qui sera un programme extrêmement convaincant. Et c'est seulement avec un programme comme le mien qu'on pourra faire la révolution dont l'Italie a besoin.
Berlusconi en leader révolutionnaire, il est de retour, il est à la barre. Une idée qui finit même par séduire certaines grandes figures de la gauche italienne, ses anciens adversaires, totalement désarmés face au mouvement populiste 5 étoiles. Ils se tournent aujourd'hui vers Berlusconi.
Voilà. Olivier Poujade, merci beaucoup. Tiens, il y avait des cloches à l'instant, Olivier. Voici des clocks, des horloges avec Coldplay. Sur France Inter, dans Un jour dans le monde. Delphine Simon, le vrai du faux de l'Europe, c'est maintenant.
France Inter, Un jour dans le monde.
Bonsoir Delphine.
Bonsoir Fabienne.
Et retour à la Catalogne, Delphine, et à ses rêves d'indépendance.
Oui, dans moins d'un mois, le 21 décembre, les Catalans vont retourner aux urnes, en toile de fond de ces élections régionales anticipées. Leur indépendance, qu'est-ce qui est négociable? Pour l'ambassadeur d'Espagne, Fernando Cardererra, pas grand-chose vu la constitution espagnole.
L'indépendance non, puisque c'est illégal, comme il est illégal en France de déclarer l'indépendance d'une région comme la Corse. Comme c'est illégal en Italie, en Allemagne, dans tous les pays européens qui ont une constitution écrite, l'indépendance d'une région est illégale.
Voilà, au moins c'est clair, une région qui déclare son indépendance, c'est illégal, dit l'ambassadeur d'Espagne, vrai ou faux?
Eh bien disons que c'est plutôt vrai, soit c'est interdit, soit carrément impossible. La constitution espagnole reconnaît aux régions le droit à l'autonomie, c'est son article 2, mais elle leur interdit de faire sécession au nom de l'unité indissoluble de la nation espagnole. Passer outre, c'est passible d'une condamnation pénale jusqu'à 30 ans de prison. Et pour que la Catalogne accède à l'indépendance, il faudrait un changement de constitution, une révision qui suppose une forte majorité dans les deux chambres du Parlement espagnol, une majorité des 3/5, un scénario à ce stade fort improbable.
Alors tiens, en parlant d'improbable, qu'est-ce qui se passerait si la Corse ou la Bretagne imitaient la Catalogne et demandaient l'indépendance?
Bah, en France aussi, la République est une et indivisible, c'est ce que dit notre constitution. Il y a donc de fortes chances que le gouvernement aurait la même réaction que celui de Madrid. Juridiquement, aucun pays de l'Union européenne n'autorise une région à faire sécession. L'ambassadeur d'Espagne a raison, mais il y a quelques exceptions.
Alors lesquelles?
Eh bien la France et le Royaume-Uni, par exemple, négocient avec certaines régions qui réclament de longue date leur indépendance. Dans le cas de la France, c'est la Nouvelle-Calédonie, cet archipel du Pacifique, doit organiser l'an prochain un référendum d'autodétermination, un processus validé il y a maintenant 30 ans par les accords de Matignon et même par un référendum en France. La Nouvelle-Calédonie est un territoire qui a un statut spécial, dérogatoire. Il figure toujours sur la liste de l'ONU des territoires à décoloniser, ce qui n'est pas le cas de la Catalogne.
Et on parle de l'Écosse aussi?
Oui, face aux demandes répétées des Écossais, Londres a aussi choisi de négocier plutôt que d'utiliser la force. Cette discussion constitutionnelle prévoyait plusieurs étapes. Premièrement, un référendum autorisé par le gouvernement central en 2014. Et en cas de oui majoritaire, il y aurait eu un délai de 2 ans pour quitter le Royaume-Uni. Mais à l'époque, les Écossais ont préféré ne pas couper le cordon avec ce pouvoir central.
Donc Delphine, si je vous suis bien, quand on veut, on peut.
Oui, c'est un peu ça Fabienne. Contrairement à ce que laisse entendre l'ambassadeur espagnol, la question n'est pas uniquement juridique, c'est aussi une question de volonté politique. De ce point de vue, en Europe, il n'y en a aucune. C'est la logique des États qui prime et les voisins de l'Espagne se sont montrés très clairs. En cas de sortie de l'Espagne, la Catalogne devra renoncer à faire partie de l'Union européenne et de sa monnaie unique.
Delphine Simon, dans Un jour dans le monde sur France Inter, allez vous soigner. L'édito du journal Le Monde ce soir, c'est Corinne Laine depuis San Francisco. Bonsoir Corinne.
Bonsoir Fabienne, joyeux Thanksgiving.
Mais happy Thanksgiving à vous aussi, j'imagine que la dinde est au four chez vous Corinne. Alors en attendant, en Californie, les responsables de la santé publique viennent de lancer une mise en garde pour la 2e année consécutive. Des cas de fièvre de la vallée sont en augmentation. À la fin de l'année, les records devraient même être battus. Alors on la connaît très peu, voire pas du tout cette maladie. Qu'est-ce que c'est Corinne?
C'est une maladie respiratoire causée par un champignon qui se trouve dans la terre. Le nom scientifique de la maladie, je vais essayer de le prononcer,
allez-y,
est coccidioidomycose ou fièvre de la vallée. La vallée, c'est la région centrale de la Californie, la région agricole entre la côte Pacifique et la Sierra Nevada. Mais le coccidioïde est répandu aussi en Arizona et dans toutes les régions arides de l'Ouest américain. Alors en Californie, le nombre de cas est au plus haut cette année, 34% de malades en plus. Plus de 5000 personnes affectées contre 750 il y a 20 ans. Et en 2016, on avait déjà vu une forte augmentation des cas. Alors comment ça se passe? Le champignon dégage des spores qui se répandent dans l'atmosphère, s'infiltrent dans les poumons. On ne voit rien, on ne sent rien. Quelques semaines plus tard, on développe une forte fièvre, une infection pulmonaire et parfois même des lésions de la peau. Au début, les médecins pensent qu'il s'agit d'une grippe ou d'une pneumonie. Le retard au diagnostic, c'est d'ailleurs l'un des gros problèmes.
Mais alors qui est menacé?
Tout le monde. Sauf à s'arrêter de respirer. Certains l'ont contracté en passant dans la vallée centrale en voiture. à New York, un blanchisseur a été contaminé par les vêtements d'un voyageur qui revenait de Californie. Mais il y a des gens bien plus exposés, les ouvriers agricoles, ceux de la construction, tous ceux qui remuent la terre en fait. Bon, il faut relativiser. 60% des gens qui ont inhalé le coxie ne développent pas les symptômes. Mais pour les autres, les conséquences peuvent être dramatiques, surtout si le champignon s'est disséminé dans les tissus. J'étais la semaine dernière à Bakersville, l'épicentre de la maladie, à 200 km au nord de Los Angeles. 6 morts l'an dernier. J'ai rencontré un agent d'assurance qui a une coxyméningite en 2012. Toutes les 3 semaines, il doit encore subir des injections dans le cerveau. Il en a pour la vie. Pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Le seul traitement, ce sont des médicaments antifongiques.
Mais alors pourquoi une telle augmentation, on le sait ou pas?
C'est toute la question. Les experts pensent que le changement climatique y est pour beaucoup. La Californie a connu une longue sécheresse, puis de fortes pluies l'an dernier. Les sports explosent avec la pluie. Mais il y a aussi l'activité humaine. L'agriculture a gagné du terrain, l'immobilier, on construit de plus en plus loin. On vient même de trouver des zones de coxie au pied des nouvelles fermes de panneaux solaires du nord de Los Angeles. Les entreprises rasent la végétation pour installer les panneaux. Le vent n'a plus qu'à s'engouffrer, à balayer les spores du champignon. Alors, les associations de malades sont inquiètes par cette prolifération. Elles reprochent aux autorités de sous-estimer le problème pour ne pas effrayer les visiteurs et elles ont commencé à diffuser des mises en garde sur les réseaux sociaux. Alors, leur conseil pour les amateurs de road trip dans l'Ouest américain, ne vous arrêtez pas dans les champs pour photographier les amandiers, évitez les poussières, l'air conditionné, ne sortez surtout pas par grand vent. Et en rentrant, si vous toussez, parlez-en à votre médecin, c'est peut-être la fièvre de la vallée.
Eh bien dites donc, c'est effrayant ce que vous nous racontez depuis San Francisco et Happy Thanksgiving quand même. Merci beaucoup Corinne Laine. Le 18-20 continue sur France Inter avec le journal de Sébastien Paour. Et puis le téléphone sonne, mais pourquoi sommes-nous si mauvais en mathématiques? Est-ce que c'est vraiment si grave? Faut-il revoir l'enseignement des maths? À tout de suite.